le 10 septembre à 21h, est-ce que vous pouvez deviner où je serai? Au théâtre d'Arras. Mais pourquoi faire? Je vais participer à un concert avec le pianiste Frédéric Lagarre. Un concert, moi qui enseigne la méditation. Eh bien oui, je vais proposer à Arras une expérience qui me tient très à cœur et que je fais souvent, un concert méditation. Vous allez écouter de la musique et je vais vous inviter à faire quelques petits exercices de pratique pour vous aider à vous rendre compte qu'écouter de la musique, c'est pas aussi intimidant qu'on le croit souvent et que ça peut transformer notre vie de manière extrêmement profonde et vivante. La méditation que je vous propose, c'est vraiment juste d'entrer dans l'expérience que vous vivez, d'ouvrir votre sensibilité, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir un champ de présence. Et c'est ça qui fait que d'un seul coup, écouter de la musique peut devenir une expérience incroyable. Au vendredi 10 septembre.
Le festival Les Inouïs, organisé par l'association Musique en Roue Libre, accueille Fabrice Midal, docteur en philosophie et philosophe méditant, qui se produira, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, vendredi 10 septembre à 21h au Théâtre d'Arras. Il sera accompagné du pianiste Frédéric Lagarde pour une expérience méditative en musique intitulée « Concert méditation » autour des préludes de Claude Debussy. Fabrice Midal a écrit un bon nombre de livres traitant de la méditation avec une approche laïque pour apprécier la musique autrement. Entretien recueilli par téléphone avec Fabrice Midal pour évoquer, entre autres, son parcours et d'une manière plus introspective, sa démarche philosophique et méditante que vous pourrez apprécier lors de cet événement. On est en compagnie donc de Fabrice Midal, philosophe méditant, qui sera en concert le vendredi 10 septembre à 21h au Théâtre d'Arras, accompagné par Frédéric Lagarde au piano pour un concert méditation. Bonjour Fabrice Midal.
Bonjour.
Alors d'abord, première question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez pris contact avec le festival Les Inouïs? Comment vous avez concocté un petit peu ce concert méditation?
Alors, c'est eux qui m'ont contacté parce que depuis de nombreuses années, je fais régulièrement des moments de méditation au cœur d'un concert. Et l'impact est très fort et c'est souvent une manière pour les gens de mieux découvrir comment la musique peut leur parler, peut faire sens pour eux. Souvent, les gens ont le sentiment que peut-être... la musique classique, c'est pas pour eux, que c'est pas évident. On sait pas toujours très bien comment faire pour apprécier. Et le sens, c'est d'aider par la méditation, qui est au fond une manière d'apprendre à simplement être présent, être disponible, découvrir une manière très vivante d'écouter la musique. Devant mon langage, en se foutant la paix, en essayant de pas se prendre la tête, en essayant de revenir à quelque chose de très immédiat, de très simple, que souvent on a perdu. Et du reste, c'est frappant parce que souvent les enfants ont un plaisir très profond à écouter de la musique, et souvent quand on grandit, on a du mal à retrouver cette manière profonde et pourtant à la fois très simple d'être présent à l'expérience musicale. Et donc je fais ça depuis un grand nombre d'années, je fais ça dans de nombreuses salles, et c'est une des expériences que je dois dire qui m'impressionne le plus parce que tout le monde fait une expérience très forte. Par exemple, le concert va commencer par... Frédéric Lagarde va jouer un morceau de Debussy de quelques minutes et puis je vais faire un petit exercice de méditation et il va le rejouer. Et c'est très impressionnant. On n'entend plus la même chose. Et on se rend compte que la qualité d'écoute change même la manière dont le musicien joue.
Comment vous est venue justement cette idée de mettre cette méditation en musique, hein? Il y a déjà eu plusieurs expériences, notamment celle avec Anna Göckel, la violoniste. C'était une chose qui semblait évidente pour vous, la musique et la méditation?
Alors, au début, c'est pas venu comme ça tout simplement. Donc, j'ai une passion pour la musique, j'ai beaucoup d'amis musiciens, mais... Chaque fois que j'essayais de faire vivre aux gens une expérience de méditation, je butais sur le fait que d'abord le discours habituel sur la méditation est à milieu de ce qui m'intéresse moi, parce que aujourd'hui la méditation c'est un truc un peu naze, pour essayer d'être zen, pour essayer de se calmer, donc ça me parle pas du tout. Puis c'est une sorte de technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive, donc ça c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais moi... l'expérience méditative, c'est vraiment juste apprendre à écouter, apprendre à être présent, à être apprendre avec l'autre. Et donc, je disais, mais comment faire pour transmettre ça? Et j'ai tenté une première fois avec un public assez néophyte, qui n'a aucun rapport à la méditation. J'ai essayé de faire cet exercice. Voilà, quelqu'un joue, c'était Anna Göckel, qui est une très grande violoniste. Elle a joué un morceau. J'ai fait un exercice de méditation. Et après, tout le monde s'est rendu compte qu'ils n'écoutaient plus de la même manière. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça. Je peux faire une expérience qui transforme les gens en quelques minutes. Et du coup... J'ai fait ça, et les amis musiciens avec lesquels je l'ai fait trouvaient que c'était une expérience très belle pour eux, parce que la qualité d'écoute était beaucoup plus belle. Et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que la manière dont les gens écoutent transforme, au fond, la manière dont le musicien joue, parce que un concert, c'est une expérience collective. Vous apportez votre écoute, et donc ça aide le musicien. Et donc, beaucoup de musiciens m'ont dit, mais vraiment, j'ai envie de faire cette expérience-là, parce que il se passe quelque chose. Il se passe, même pour nous, parce que vous voyez, souvent les gens écoutent la musique, mais ils savent pas trop, ou alors on a l'impression qu'il faudrait avoir des connaissances. Vous allez dans un musée, vous connaissez pas, et alors vous mettez un casque, on vous explique, le peintre est fait à telle époque, il a voulu dire ça, il a fait ça. Donc à force, les gens ont l'impression qu'il leur manque quelque chose pour apprécier l'œuvre d'art. Mais en réalité, non. Pour apprécier l'œuvre d'art, il faut juste... se met dans une disposition d'appréciation. Et peut-être que la méditation est la vraie clé, la vraie porte, la vraie médiation pour tout public, puisque ça montre voilà comment on écoute. Et je dirais des choses très simples dans le concert, mais par exemple, souvent, on n'écoute pas qu'avec ses oreilles, on écoute avec sa présence corporelle entière. Il y a plein de choses, des choses très simples. Il suffit de les dire pour que vous dites « Ah oui, je peux me foutre la paix et laisser être la musique ». Il y a quelque temps, il y a Barenboim qui est venu à la Philharmonie de Paris avec l'orchestre de Berlin. Et je dis à un ami, mais il faut absolument que tu viennes écouter ça. Il y est allé, mais je le voyais pendant le concert, il était tellement stressé. Parce que je lui avais dit, c'est Barenboim, c'est Beethoven, c'est l'orchestre de Vienne, c'est extraordinaire. J'avais tellement dit que c'était extraordinaire, il avait tellement entendu que c'était extraordinaire, qu'il se disait, mais est-ce que je vais réussir à écouter comme il faut? Et en fait, ça crée un obstacle. Et c'est pas la bonne manière de faire. Et donc, cette petite exercice de méditation, souvent, permet d'enlever cette appréhension et nous mettre dans une disposition où c'est vraiment un être humain qui entre à l'unisson de la musique. Et il se trouve que le programme que nous allons faire, avec Frédéric Lagarde, on va le consacrer à Debussy. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que Debussy, c'est un des musiciens les plus méditatifs de l'histoire de la musique occidentale. Donc c'est très heureux de ce point de vue-là.
Alors donc, vous avez également une approche plutôt laïque de la méditation, dans vos livres notamment, et puis en même temps, vous avez une approche un peu plus, dans votre livre « Foutez-vous la paix », devenez narcissique. Alors, il faut revenir au narcissisme, alors que souvent, généralement, le narcissisme est un petit peu, je dirais pas péjoratif, mais c'est quelque chose quand même qui est un peu égocentré. Comment vous voyez justement ce côté narcissique chez les personnes?
Alors, d'abord, c'est pas le même livre. J'avais fait le livre
Ah, oui.
La paix, qui était une manière de dire aux gens voilà, arrêtez de vous mettre la pression. Et puis en plus, même quand on parle de méditation aujourd'hui, c'est un truc qu'il faut réussir. Non, mais en se foutant la paix, on n'est plus disponible. Et après ce livre-là, je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffraient d'un manque de confiance en eux, d'un manque de tendresse envers eux, d'une manière d'être vraiment dur avec eux. Je constatais, j'ai beaucoup travaillé sur les violences du quotidien, et je constatais que, par exemple, beaucoup de gens font des burn-out, ou même juste sont extrêmement stressés, et le discours qu'on leur tient me semblait pas du tout adéquat, puisqu'au fond, on dit aux gens qui font un burn-out, c'est un peu de leur faute, ils avaient mieux géré leur stress et mieux géré leurs émotions, ils n'auraient pas fait un burn-out. Et ça me semblait très violent, une sorte de double peine, parce que les gens qui font un burn-out, ce n'est pas les gens qui n'en ont rien à foutre et qui sont paresseux, qui restent dans leur fauteuil, c'est des gens qui sont dévoués, qui essayent de bien faire. Et je me disais, au fond, les gens veulent trop bien faire, et qu'il y a une sorte d'éthique du sacrifice dans notre société qui me semble pas saine. Je pense que c'est bien de faire des choses par amour, mais pas en se sacrifiant. Et c'est là que, d'un seul coup, je me suis dit, peut-être il faut réhabiliter le mythe de Narcisse, qui est aujourd'hui mécompris, donc dévalorisé. On dit que narcissique, c'est être égoïste, on parle même de pervers narcissique. Mais le mythe de Narcisse ne parlait pas du tout de ça dans l'Antiquité, il parle de la rencontre avec soi. Et on oublie quand même, c'est que Narcisse, c'est le nom d'une fleur. C'est le nom de la plus belle fleur du printemps. Ce sera la plus belle fleur, la première fleur du printemps. C'est-à-dire, après la neige, il y a les crocus et les narcisses qui poussent. Et pour les anciens, le narcisse était le symbole de la vie qui revient. Donc, c'est quand même dingue que le symbole de la vie qui revient, ça s'appelle Narcisse, parce que si c'était pervers, on n'a pas appelé ça le nom d'une fleur. On aurait appelé ça grosse merde. On aurait appelé ça, je sais pas, un truc horrible. Donc c'est quand même bizarre qu'on appelle pervers aujourd'hui le nom de la plus belle fleur qui symbolise l'éveil de la vie. Donc là, on n'a pas le temps de revenir sur tous les détails du récit et comment le mythe a fécondé toute l'histoire de l'Occident. Parce que ça a toujours été un mythe de ressources, de défense, de notre singularité, de notre intimité, de notre liberté dans un monde où elle est menacée. Donc au fond, le mythe de Narcisse est un mythe à la fois de se relier à notre propre sagesse et de liberté. C'est ça que j'essaye de montrer. Puis j'essaye de montrer que être égoïste, c'est le contraire d'être narcissique. Parce que quand vous êtes égoïste, c'est que vous écrasez les autres en vous lançant aux arrêts des confirmations. Et donc ça, vous êtes égoïste parce qu'au fond, vous n'avez pas confiance en vous. C'est un manque de confiance. Alors on n'a pas le temps peut-être de parler de tout ça, mais par exemple Trump, on voit bien que Trump, il n'est pas narcissique. Trump, il ne s'aime pas. Sinon, il serait pas dans le déni de la réalité, il ne serait pas tout le temps en train de vouloir que tout le monde trouve qu'il est le plus génial. Là, il y a une sorte de délire. Et c'est un délire qui est, à mon avis, le contraire du narcissique. S'il était narcissique, il aurait foutu la paix à tout le monde. Et, vous voyez, c'est ça un peu qui est au cœur de la perspective du moment où je travaillais sur ce livre.
Vous avez fondé en 2006 l'école de méditation. Pour nous expliquer un petit peu le processus, et ce qu'on y fait dans cette école, vous proposez des visioconférences, des ateliers, mais aussi plein de choses. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le travail qui est fait avec les enseignants?
L'école de méditation aujourd'hui, la principale école de méditation laïque dans le monde francophone, qui est fondée, qui est une association sans but lucratif. Tous les enseignants sont bénévoles, moi y compris. Et l'idée, c'est de transmettre cette méditation, disons, plus humaine, pas cette méditation qui est, comme je disais, cette sorte de technique pour essayer d'être plus performant, de se calmer, d'être zen. Mais au contraire, une méditation de rencontre avec soi, d'ouverture sur le monde. Et donc, on apprend à méditer, on apprend à développer de la bienveillance, à faire la paix avec soi, mais aussi, on fait plein de rencontres avec des penseurs, des philosophes, des musiciens, on organise des concerts, on organise énormément d'activités, avec la perspective que la méditation permet un espace de rencontre, de dialogue et d'égalité. Puisque, au fond, méditer, il n'y a pas des gens qui sont plus forts que d'autres, c'est juste apprendre à être présent et partager un moment de présence. Et voilà, et dans l'école, les gens ont le sentiment que ce qui les rend le plus heureux, c'est de partager un moment de présence, gratuit, ouvert, libre. Et à partir de là, vous pouvez développer de la présence en vous promenant dans la nature, en partageant quelque chose avec d'autres, en étudiant un texte. Donc voilà, et elle s'est beaucoup développée. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'antennes, beaucoup de cours en visioconférence, on fait des cours du film, on fait plein de choses qui font, voilà, le déploiement important de l'école. On a à peu près 40 enseignants, encore une fois, tous bénévoles, et qui créent, un espace de partage assez extraordinaire. C'est vraiment assez magique.
Alors, bien évidemment, on se doit de revenir un petit peu sur cette période très bizarre de pandémie, etc., où ben là, les gens ont été confrontés soit à l'isolement, soit au stress. Peut-être que des gens qui n'étaient pas du tout stressés avant ont vécu des périodes assez curieuses. Est-ce que vous-même, vous avez constaté justement qu'il y avait une recrudescence de ces personnes qui avaient peut-être éventuellement besoin de méditer, de revenir à soi-même ?
C'est vrai, vous avez raison que des fois des gens méditent parce qu'ils vivent une période difficile, mais moi je ne médite pas parce que je suis stressé, je médite pour mieux apprécier la vie. Voilà, j'étais à un concert hier soir et j'ai pratiqué 2-3 minutes avant que le concert commence pour être disponible, pour laisser tomber mon boulot de la journée, les réunions, les difficultés que j'ai eues et mieux apprécier les choses. Donc je dirais méditer, pour moi, c'est pas... Évidemment, ça, il y a des gens qui viennent méditer et ça peut les apaiser profondément. Mais moi, je médite d'abord pour mieux me réjouir du bonheur d'être vivant et le bonheur d'être en lien. Et je crois que ça ouvre profondément sur des relations à l'autre, plus riches et plus heureuses. Et dans un monde où on est souvent isolé, la méditation permet donner droit à des relations plus heureuses avec les autres. Maintenant, c'est clair que dans l'école, on peut aussi aider des gens qui vivent des moments de tension et qui veulent trouver un apaisement. Ça, il y a une dimension thérapeutique au cœur de la méditation. Mais c'est qu'un aspect. Mais dans les nombreux enseignants, il y en a qui sont philosophes, mais on a aussi des thérapeutes qui travaillent sur ouvrir à ce lien.
Et est-ce que l'école de méditation intervient également dans le milieu scolaire, aussi peut-être, je ne sais pas, dans le milieu carcéral, dans les hôpitaux spécialisés où des gens sont peut-être éventuellement en souffrance ?
Alors pas du tout, puisque notre fonction, c'est d'être une association de gens qui pratiquent entre eux. Donc ce n'est pas du tout notre dessein, mais nous formons des gens qui le font. Beaucoup de gens ont été formés dans l'école. Et dans l'école, nous avons une formation en un an à la méditation, avec une approche qui n'est pas de suivre un protocole à la lettre, mais d'avoir une compréhension fine de la méditation. Et alors, par contre, on a formé dans l'école de très nombreux enseignants, de très nombreux médecins, de très nombreux soignants. Et par ailleurs, adossé à l'école, nous avons créé un fonds de dotation pour un projet scientifique sur l'impact de la méditation pour les personnes âgées. Donc, on a un projet... Et on a un projet de la méditation pour aider les jeunes en difficulté. Et on a travaillé surtout pendant la crise sur les jeunes, qui ont été quand même une des populations les plus affectées par la crise. Donc, disons, on fait de la recherche et des opérations, des travaux un peu pilotes au sein de ce fonds de dotation qui est un peu adossé à l'école. Ce sont des gens de l'école qui le font de manière bénévole. Qui offre ça. Mais dans l'école, comme c'est une association, c'est pour les membres. On est vraiment, il faut être membre de l'école pour participer aux activités, mais nous avons ces activités-là. Et la dimension de formation en un an fait qu'on a formé aujourd'hui un très grand nombre de gens qui n'ont pas envie juste de faire une sorte de technique de gestion pour calmer les enfants. Parce que il y a méditation et méditation. Il y a des méditations dans les écoles, c'est atroce. Les enfants sont turbulents, on les prive de récréation pour leur faire un cours de pleine conscience pour les calmer. Je m'oppose de toutes mes forces à cette approche. Et si la méditation, c'est aider l'enfant à entrer en rapport à ce qu'il sent, à lui donner une approche d'explorer le sentir, de mettre en relation avec son corps, avec sa sensibilité, le réconcilier avec ce qu'il est, pouvoir lui permettre de dire un peu ce qu'il sent, c'est très aidant. Pour que vous compreniez la singularité de l'approche que j'ai de la méditation, prenons l'exemple d'un enfant qui revient de l'école et qui est angoissé. Est-ce que vous allez lui dire, je sens que mon enfant est angoissé, il ne va pas bien. Est-ce que je lui dis, assis-toi en zazen et médite? Ou est-ce que je lui fais un câlin? Je lui offre peut-être son goûter. J'essaye de créer une relation avec lui pour qu'il me dise ce qu'il a sur son cœur. Et peut-être il va me dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a harcelé et je ne me sens pas bien. Pour nous, la méditation, c'est le premier cas. Mais pour moi, non. Le premier cas, c'est juste une fuite en avant qui ne sert à rien. Et le deuxième cas, c'est ça, la méditation. c'est ouvrir une relation affective, amicale, tendre avec son enfant pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Et dans la pratique, on fait la même chose avec soi. Et pour la plupart des gens, c'est pas du tout ça la méditation. Donc le mot est même devenu un peu difficile. Mais pour moi, la méditation, c'est cette attitude-là. J'entre, je crée un espace de sécurité dans lequel je peux rencontrer ce que je sens, entrer en relation avec ce que je vis, pour être plus disponible et pouvoir aller de l'avant. Et alors après, moi j'ai travaillé beaucoup avec des psychiatres, j'en ai même formé beaucoup à la méditation, et d'un point de vue thérapeutique, c'est en plus beaucoup plus utile. Il y a un malentendu complet. La méditation, comme elle est présentée, a très peu d'impact sur la vie des gens en réalité, parce que elle est plus souvent un évitement expérientiel qu'une manière de rencontrer ses difficultés pour aller de l'avant.
C'était un entretien avec Fabrice Midal, philosophe méditant, pour évoquer le concert Méditation qui se déroulera dans le cadre du festival Les Inouïs, organisé par l'association Musique en Roue Libre au Théâtre d'Arras vendredi 10 septembre à 21h. Si vous désirez plus d'infos, rendez-vous sur le www.festivallesinouïs.com et si vous voulez plus de renseignements sur les travaux de Fabrice Midal, www.fabricemidal.com.